Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi 4 décembre, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
C'est toujours la saison 2 de La Relève, tous les 15 jours. La Relève, c'est donc 30 minutes avec les jeunes talents, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, si vous allez au cinéma, il est fort probable que notre invité a fait battre votre cœur fort, très fort, à 120 battements par minute. Voilà, j'ai dérapé comme à chaque fois. Normalement, très exactement, 120 battements donc. Notre invité est acteur et on n'a pas fini de le voir. Antoine Reynard, bonjour.
Bonjour.
Pour ceux qui n'auraient pas tout compris à la grande finesse du lancement que je viens de faire, tout de suite un indice musical.
C'est cela.
Antoine Reynard, quand vous entendez cette musique, vous pensez à quoi ?
Au film. Évidemment. En fait, moi,
le film, c'est 120 battements par seconde. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Small Town Boy. Attention, il faut que je parle anglais, ça va être compliqué. De Bronski Beat, là, qui est remixé par Arnaud Robettini. Et donc, c'est bien évidemment la bande originale du film de Robin Campillo, dont vous êtes un des héros.
Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une musique que moi, j'ai beaucoup écoutée dès le casting. Parce que je savais qu'elle serait dans le film. Je dois faire tout un discours sur cette musique. Donc elle m'inspirait parce que c'est la musique de cette époque.
Mais c'est une époque que vous n'avez pas connue, vous êtes très jeune vous.
Non, je ne suis pas très jeune mais je ne l'ai pas connue.
Vous ne l'avez pas connue à l'époque, enfin à l'époque vous n'en saviez pas dessus.
Non, pas du tout.
Donc vous l'avez découvert à cette occasion ou avec tout ce qui existe aujourd'hui, vous l'aviez déjà entendu?
Je l'avais déjà entendu, après je ne la connaissais pas parce que Bronski Beat c'est quand même quelque chose qu'on a pas mal entendu, Jimmy Somerville.
Voilà. Moi je suis plus jeune depuis très longtemps donc je ne sais pas.
Moi j'aime bien écouter nostalgie.fr parfois quand on fait de la route et tout. Donc,
Alors le film est un événement, comme j'ai dit, c'est un film que je pense que la majorité de nos auditeurs ont vu, en tout cas une grande partie de nos auditeurs ont vu. Comment on se retrouve dans une telle aventure quand on est un jeune acteur comme vous?
Clairement, moi quand j'ai voulu reprendre le théâtre, j'ai dû arrêter une période de ma vie. J'ai regardé les gens qui me faisaient rêver et je me suis dit, qu'ont-ils fait? Quels sont leurs parcours? Soit ils viennent du milieu, c'est-à-dire que ce sont des enfants d'eux, ce qui n'enlève rien à leur talent, clairement. Soit ils ont fait le conservatoire de Paris, où il y a une ou deux personnes, Tahar Rahim, il y a une ou deux exceptions, Romain Duris. Mais comme on ne peut pas miser sur l'exception, j'ai tout fait pour rentrer au conservatoire de Paris. C'était assez difficile.
Mais une fois que vous étiez au Conservatoire de Paris, comment vous avez été casté pour ce film?
Ils ont vu pas mal d'anciens. Moi, je suis sorti il y a 3 ans. Ils ont vu beaucoup d'anciens. Ils ont vu énormément de monde. Les dires de cast, ouais. Elles sont superbes. Et
dires de cast, casting.
Ouais, c'est ça.
Ouais, vous êtes dedans. C'est pas grave. C'est bien. On sent que vous êtes le vrai, que c'est pas un faux.
Ouais.
On a le vrai. On a le vrai Thibaut qui joue le rôle du président d'ACTOP.
C'est ça.
Et donc, à quel moment vous avez un scénario? Ça se passe comment?
Au départ, j'ai juste une scène. Ça se passe très très bien. Donc
c'est les fameux essais qu'on voit quand on voit parfois les stars des années plus tard.
Juliette Binoche, et qu'on se dit déjà son premier essai, elle était sublime, elle était incroyable.
Donc vous, c'est pareil. Vous avez fait une scène pareille.
On a fait une scène, j'étais moins déchirant que Juliette
Binoche. Ça, on dira dans 20 ans.
Mais la scène s'est hyper bien passée. Et après, il y a eu 9 mois de casting avec des grands hauts, des grands bas.
Donc pendant 9 mois, on attend pour savoir ce qui va se passer.
C'est ça.
Vous êtes sûr de rien?
On est sûr de rien. Finalement, un autre rôle qu'on nous donne. Finalement, un très joli rôle, mais qui n'a qu'une phrase dans le scénario.
Ah ouais, c'est ça. C'est que vous saviez que vous alliez être dans le film, mais vous ne saviez pas où.
Oui, ils étaient sûrs de me vouloir, comme ils voulaient. Mais comme ils étaient en train de construire une bande, c'était vraiment une histoire de... C'est d'ailleurs la force de Rodin. Je trouve qu'il a... On n'est pas sur un film, une bande d'homo séropo. On est vraiment sur une représentation très diversifiée et très hétérogène.
Et donc, il a voulu constituer une bande et qu'on retrouve... C'est vrai que quand on voit le film, c'est évident que vous êtes une bande et on a du mal à... Quand on en voit un de vous, parfois, un peu plus starisé que les autres, on se dit, pourquoi lui? Parce qu'ils sont vraiment une bande, tous les trois, notamment les trois acteurs principaux.
C'est rare de réussir des films chorales comme ça, effectivement.
Ça vous a intéressé? Il vous l'a dit dès le début que c'est ce qu'il voulait faire?
Il le disait dès le début, il voulait réécrire un peu avec nous aussi, ce qu'il a fait. en partie. Après, moi, j'avoue que dès la lecture du scénario, enfin, il y a des petits rôles qui sont devenus sublimes et on pouvait pas le deviner. Vraiment, vraiment, il a donné de la place à chacun. Après, dès la lecture du scénario, j'avoue que moi, j'adorais mon rôle.
Mais oui, j'ai lu ça. J'ai lu que vous, dès le début, vous vouliez être Thibaut. Et ouais. Je trouve ça très étrange parce que c'est pas le rôle le plus flamboyant. J'aurais presque moi-même tendance, en tant que téléspectateur, à dire que c'est un peu un rôle ingrat. C'est un peu le rabat-joie de la bande. C'est celui qui est obligé de calmer les autres. Qu'est-ce qui vous plaisait? Vous aviez enfin envie d'être président?
Ouais. C'était mon rêve. Non, j'ai déjà été président d'une association humanitaire, donc je voulais garder ce pouvoir que j'avais perdu.
Plus sérieusement, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce rôle?
Non, je trouve qu'il a beaucoup le trouve antipathique, alors que moi, j'étais hyper surpris. Non,
moi, mais... je le trouve ingrat comme rôle pour un acteur parce que, justement, c'est ça qui rend votre performance intéressante, c'est que vous le faites très bien. Vous faites très bien ce gars qui a déjà beaucoup de responsabilités sur les épaules et qui est capable de dire maintenant ça on peut pas faire, réfléchis à l'association au-delà de ta petite révolte personnelle. C'est un peu ça votre rôle, vous êtes un peu la voix de la raison. Bah, et je me dis que pour un acteur, c'est moins facile à jouer que l'hystérique de base.
Et ouais, mais il y a plus de.
Qui dit, mais le monde est trop injuste.
Et oui, mais moi, l'hystérique de base, c'est difficile pour moi à jouer.
Ah, d'accord.
Non, mais il a beaucoup d'humour, moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour et que, oui, il y a un endroit où on replace de la connaissance et du. Enfin, je veux dire, il se bat, mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus modéré, en fait. C'est-à-dire que juste, ils ne sont pas naïfs. Il n'y a personne qui est naïf, sauf qu'il essaie de construire quelque chose. Et face à des discours un peu... je pense que justement, il est un peu énervé contre des discours qui peuvent être trop vides. Il faut les construire, quoi. Et ça me plaisait.
C'est aussi un rôle quand vous incarnez quelqu'un qui a existé, tout le monde sait que c'est plus ou moins Didier Lestrade, de ce que moi j'ai compris. Mm-hmm. En tout cas, ça s'inspire de lui. Comment, quand on est acteur, on se dit, je pense pas que vous jouiez à l'imiter, mais vous l'avez rencontré, vous êtes renseigné, vous avez fait ça comment?
Moi, je l'ai rencontré qu'après.
Vous vouliez pas avant, justement, vous vouliez être tranquille?
Non, j'aurais beaucoup aimé, mais il n'était pas là. Et après, j'ai tout lu de Didier Lestrade avant, donc j'avais l'impression de le connaître, je l'ai vu parler. Après, je voulais pas faire, c'était pas un biopic en plus. Autant moi, je me suis beaucoup inspiré de Didier Lestrade, Robin Campillo aussi, mais Robin s'est inspiré, il a fait un mélange de personnages. Donc, il y a plein de gens qui disent je vois cette personne, je vois chaque ancien président d'Act Up, c'est un peu vu dans mon personnage. Donc, à chaque fois, les gens se disent c'est tout à fait moi. Et donc, les gens projettent. Après. Pour s'inspirer, enfin donc il y a eu tous ces bouquins et ce que je disais je sais pas comment l'exprimer, mais c'est-à-dire que Didier Lestrade, oui.
Ouais, c'est une personnalité très forte, c'est quelqu'un de très donc du coup je pense que si vous aviez essayé de l'imiter, ça serait peut-être très dur de réussir. Enfin,
oui, non, c'était pas possible.
S'inspirer de ce que vous dites, s'inspirer de plusieurs personnes, de revoir l'époque. Par exemple, vous avez été sur YouTube revoir des actions d'Act Up, comment ça se passait?
On a revu beaucoup sur lina.fr, ouais, toutes les vidéos de l'époque. C'est surtout comprendre comment on vivait à l'époque avec cet inconnu total.
Je peux vous demander l'âge que vous aviez, vous, à l'époque, en gros, à la fin au début des années 90?
Moi, j'avais 3 ans.
Ah oui, donc c'est quelque chose, vous aviez zéro souvenir de ça?
Non, j'ai aucun souvenir.
Et vous avez été voir des gens qui ont vécu cette période? Vous avez eu envie ou...
J'en ai rencontré beaucoup après. Après, tournage, c'était tellement fort. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup lu dessus parce qu'il faut être hyper blindé pour affronter un rôle comme celui-là. Il faut vraiment être solide.
Pourquoi? Parce que vous aviez peur de craquer?
Parce que c'est dur. Hein. Il faut être conscient qu'il y a 150 figurants, 3 caméras, une équipe technique avec 80 personnes.
Ça, dans les AG, par exemple, les scènes d'AG qui sont excellentes, ouais. Qui sont presque les meilleures du film. Enfin, le film est très bien, mais on n'imagine pas qu'une AG, ça puisse être aussi passionnant. Donc ça, c'est là où c'est dur parce qu'il y a du monde et qu'on peut... C'est quoi? Oui. C'est la peur de se tromper?
C'est pas de se tromper d'un mot, puisque ça, c'est pas grave, mais c'est la peur de pas être... On peut pas ne pas être au niveau, c'est-à-dire qu'on croit souvent que sur un plateau, il y aura plusieurs prises et tout va bien. Non, il y a plusieurs prises, on est 12 comédiens à jouer dans la scène. Il faut être bon tout le temps, en fait. Il n'y a pas de possibilité pour l'erreur.
Et quand vous dites on ne peut pas être au niveau, c'est aussi par rapport au sujet, si vous sentiez une responsabilité par rapport à ça?
On
va rappeler le sujet qui est quand même la lutte contre le sida à une époque où
tout le monde
les gens meurent beaucoup, pas par centaines, je pense, à Paris, peut-être même par milliers. Une épidémie vraiment très forte qui était...
Et c'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure sur l'histoire du personnage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on lui verrait beaucoup d'ambition, il n'en a pas, puisqu'il sait qu'il va mourir dans 2 ans. Donc l'idée d'être président à cette époque-là, ce n'est pas une idée, idée d'ambitieuse. Il n'y a pas d'ambition à cette époque. Il faut être au niveau parce que Robin a vécu ses années, parce que quand on en parle avec le co-scénariste ou le producteur, ils ont été des présidents d'Act Up ou des figures importantes d'Act Up. Et parce que aussi, il faut être au niveau du scénario. Le scénario est hyper bien écrit, très fin. Il y a quelque chose d'un peu proustien, je trouve. Enfin, après, c'est beaucoup plus, plus facile d'accès. Proust sous acide et sous extra. En même temps, dans Proust, il y a des moments où Proust nous raconte ses histoires de débauche totale. Proust, c'est très bien écrit, mais c'est quand même des histoires
très drôles et il y va parfois, quoi.
En termes de subversion, pas, ça y va quand même. On est dans des maisons closes, des hôtels de passe aussi parfois. On séquestre son âme sœur. Quand même, ça y va.
De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est un conseil que je donne à tous les audites. Enfin, peut-être par les temps qui courent, je ne devrais pas dire ça.
Non.
Mais il faut séquestrer son âme sœur si seulement il est d'accord. Vous êtes acteur, mais donc j'ai lu, alors je crois que tout à l'heure vous l'avez dit incidemment, que vous aviez un moment fait autre chose.
Oui.
En consultant, non pas des fiches personnelles que j'ai, mais internet, j'ai vu que vous étiez titulaire d'un master en management de la solidarité.
Oui.
Et je me suis demandé si vous avez aussi connu ce milieu associatif, donc personnellement, dans votre travail, vous avez travaillé pour des associations?
Oui, moi c'était beaucoup plus de la solidarité, donc beaucoup plus du soutien scolaire, des vacances pour des milieux plus défavorisés, quoi, on va dire, et de l'humanitaire, si on peut appeler ça comme ça, enfin en tout cas du développement. Juste avant de reprendre le théâtre, j'avais une proposition au programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie sur le droit des femmes. C'était avant la révolution, donc je pense que c'était moins dingue qu'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui me... Oui,
vous avez eu une vie associative, vous avez une idée de ce que c'est, même si vous n'avez pas connu ces années-là, ça vous...
Oui, complètement. Qui n'a rien à voir avec...
Vous avez retrouvé des choses avec ce que vous aviez vécu dans...
Bah, en tout cas, je n'apporte pas de préjugés sur ça, je pense. C'est ça aussi la difficulté quand on est comédien, c'est qu'on arrive toujours avec des préjugés sur un rôle. C'est sûr que quand on connaît le milieu associatif, on n'arrive pas en se disant défendre une idée, c'est forcément être véhément, c'est forcément crier. Non, en fait.
C'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette manière de jouer très, très maîtrisée. Moi, j'avais noté raisonnable et peu flamboyant. Mais c'est bien parce que vous savez qu'on ne peut pas l'être flamboyant, c'est qu'il y a aussi des responsabilités. Il y a une machine à faire tourner.
Mais à un moment,
c'est aussi ça, une association.
Oui, complètement. On n'est pas dans l'idée de. On est dans du concret. L'association, c'est passer des coups de fil. C'est pas que des grandes idées.
Ouais, c'est pas que défiler avec des banderoles et vouloir changer le monde. C'est aussi coller des enveloppes et...
Exactement, c'est faire du listing, c'est envoyer des fax. Et en même temps, c'est aussi... Et c'est ça qu'on fait ACT UP, c'est pour ça que les gens aimaient être ACT UP. C'est parce que c'était quand même flamboyant. On allait quand même défiler, il y avait des grands moments de soirée.
Ce qui était flamboyant, c'était l'action. L'action était flamboyante, il y avait un côté spectaculaire qui était recherché.
Après, on essayait d'être très, je crois, chez ACT UP. Bon, j'y étais pas, mais ils essayaient d'être très dans l'action.
Vous dites ça. J'ai rien dit, vous avez dit envoyer des fax. Je doute que vous n'ayez jamais envoyé un fax de votre vie.
J'en ai jamais envoyé.
C'est
mes parents.
Ça m'a fait beaucoup rire.
Je suis jamais allé sur Minitel.
J'ai rien dit, mais. Vous avez vécu ça aussi intensément en tant qu'acteur?
Il y avait des effets de réel qui étaient assez intenses. À partir du moment où on a commencé à se connaître, au début c'est difficile parce qu'on est dans des problématiques de est-ce que j'ai ma place, est-ce que après 9 mois de casting on peut avoir des doutes, se dire est-ce que c'est bon, est-ce que... Et en fait à partir du moment où on commence à se connaître, toute l'équipe, à voir qu'on a sa place et que ce qu'on fait a du sens, on se libère et on commence à comprendre aussi parce qu'avec Robin, oui on se rencontre mais... on n'a pas le même langage. Robin a un très très beau regard sur les comédiens, c'est-à-dire que quand il dit non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Par contre, il sait pas forcément vous amener à là où il faut. S'il dit c'est mauvais, c'est mauvais. Ok, après il faut être autonome et savoir comment on s'en sort.
Il a un diapason très juste,
c'est ça.
Mais il sait pas faire la note. Enfin,
pas
il sait pas très bien la note qu'il veut avoir.
Pas forcément, non. Effectivement, oui, il sait ce qu'il veut avoir, mais quand il vous le dit, vous comprenez pas et vous faites l'inverse.
Vous avez tourné très vite ce film? Ça s'est étalé sur beaucoup de temps?
Non, 2 mois. Donc c'est quand même assez rapide et il n'y avait pas de scène facile. C'est pas un film où on marche dans la rue et on est filmé de dos et on arrive en taxi et on descend de la voiture. Enfin, il n'y a pas de scène comme ça.
Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais demander. Oui, si vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des effets de réel, c'est très étrange parce qu'on regarde, on n'est pas non plus dans une très grande reconstitution. C'est pas. Quand on voit le film, on ne voit pas la reconstitution des années 80, on ne voit pas le fameux fax, je crois pas.
Non, on ne voit le Minitel non plus.
C'est quoi le réel? C'est justement ces âgés où il y avait beaucoup de monde et...
Le réel, c'est savoir qu'en fait, on est sur un tournage où il y a un moment, on est dans une rue, on enterre un pote de ces gens-là et on sait qu'en fait, c'est inspiré de l'ancien amant du producteur du film qui est sur le tournage.
Vous le savez, dit.
Certains le savent, moi je le sais, puisque j'ai longuement parlé, etc. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher de se dire, y a des moments où vraiment on se dit, oh non mais c'est trop dur en fait, ce qui nous arrive, alors qu'en fait, ça ne nous arrive pas du tout, c'est pas du tout moi. et puis après on se laisse aller en
disant...
C'est
quand même en termes émotionnels, ça doit être fort.
Ouais, parce qu'on est quand même porteur, enfin 25 millions de morts sur 25 ans, on est porteur de ça.
Eh bien voilà, c'était très bien, on était très bien, on discutait entre nous, c'était Baxter Dury, mais je serais bien incapable de vous dire quel morceau, mais c'était vachement bien.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Voilà, c'est ça, on reçoit des stars et du coup après on sait plus. Donc c'est un extrait du nouvel EP, parce que c'est un EP, pardon, c'est comme ça qu'on dit sur France Inter, on dit pas un album de Baxter Dury, ça s'appelait Prince of Tears. Donc ça allait aussi assez bien pour ce dont on parle.
J'avoue, il faut pleurer.
on l'évoquait avant, donc vous avez pris des cours de théâtre, donc je rappelle, on est avec Antoine Reynard, vous êtes Thibaut dans le film 120 battements par minute. Je vais pas redire par seconde comme tout à l'heure, car je crois que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai battu vraiment très très vite. Et c'est gentil.
Ouais, donc 120 battements par minute, c'est à la fois
la house. Disco, ouais, c'est la house.
Ouais, de la house disco. Enfin, c'est 123, 126. Et pour la productrice, c'est aussi les battements du cœur au moment du coup de foudre. Quand on bat très vite, mais pas du tout pour Robin, clairement.
Bon, et il bat moins vite. Okay. On l'invitera la prochaine fois, je crois. Et non, vous disiez que vous aviez commencé à prendre des cours, vous êtes retourné travailler, vous avez repris des cours. Qu'est-ce qui vous a conduit? Vous avez douté de votre vocation d'acteur?
Pas vraiment. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'étais en option théâtre au lycée. J'étais au conservatoire de région, dans ma région, à Nancy. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, je viens d'une famille où mes deux parents ont fait des prépas, sont vétérinaires, pas du tout artistiques. Donc, on a des représentations beaucoup sur l'idée de génie, de talent, qui sont très répandues, en fait, partout.
Sur le vétérinaire?
Sur l'acteur. C'est-à-dire que quand on est acteur, c'est une nature. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de faire des études. Fais des études et si tu dois le devenir, tu le deviendras. Ce qui est faux, hein. Disons les choses, il n'y a pas d'idée de génie ou de talent. C'est comme tout, il y a des choses sur lesquelles... Voilà, c'est énormément de boulot. Et donc, les études sont indispensables pour moi ou alors travailler sur le terrain. Mais voilà, et donc ça a été assez dur de reprendre après une école... de commerce, hein, disons les choses telles qu'elles sont.
Ah, vous aussi une école de commerce parce qu'il fallait faire plaisir à papa-maman?
Voilà.
Genre, passe ton bac d'abord, c'était la version 2016 de passe ton bac d'accord.
Master d'abord, ouais, c'est ça.
Ah, d'accord.
Mais pas par méchanceté du tout, c'est par non-connaissance de ce milieu artistique, par peur en fait.
Et puis vous en laissez quand même aller faire du management des associations. Donc
oui, complètement.
C'était pas à faire de la finance à New York.
J'ai fait de la finance à New York, mais...
mais je ne savais pas. Et alors, c'était comment ?
À New York, c'est assez beau parce qu'ils ont quand même une idée globale. Ils l'inscrivent dans une idée sociétale, il y a une idéologie. Alors qu'en France, souvent, dans les écoles de commerce, on a tendance à juste dire maximiser le profit.
Si j'avais, je ne pensais pas du tout qu'on allait parler de finance à New York, mais c'est intéressant.
C'est moins humaniste, finalement, presque.
Ah ouais,
c'est fou, hein.
Ouais, mais ça confirme des choses qu'on m'a dit en fait, où à New York les gens travaillent beaucoup plus en équipe, où il y a une certaine solidarité paraît-il dans les équipes de traders qu'on voit pas du tout ici, c'est ce que me racontait.
Et même dans la finance on le pense par rapport à la société, au profit quand même de nous-mêmes et non pas
bon. Aujourd'hui vous faites la promo, alors vous me disiez que vous étiez réparti les rôles entre acteurs et que vous faites la partie à mon avis la plus dure puisque vous allez un peu dans le médico-social, vous allez voir les gens d'association, oui. Vous allez aller dans des CHU présenter le film.
Ça là je vais au CHU de Guadeloupe, donc là c'est pas le plus dur, hein. On a fait plus dur que le Guadeloupe, même si en fait si en Guadeloupe
la misère
c'est vraiment...
est aussi dure au soleil,
non,
hein, c'est
ouais,
ce que disait Aznavour,
en vrai l'enjeu est très très important en Guadeloupe parce
sur
que
on est début décembre, je vous rappelle, on vient de faire la journée mondiale du sida et on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de prévention
et notamment dans nos îles, aux Antilles, c'est assez dur. C'est le seul endroit où les hétérosexuels sont beaucoup plus touchés que les homos, mais il y a une grande recrudescence là-bas chez les jeunes homos et chez les jeunes migrants, parce que, évidemment, comme les îles autour sont très contaminées.
Ça veut dire que comme on voit dans le film, les malades sont devenus finalement des spécialistes du sida avant les médecins. Vous-même, acteur, vous êtes finalement devenu une quelque sorte, peut-être pas un spécialiste, mais en tout cas quelqu'un qui témoigne.
Oui, clairement. Après,
c'est
le plus gros challenge, ça a été, j'ai dû parler une heure devant le congrès de la SFLS, qui est la Société Française de Lutte Contre le Sida, donc devant uniquement des médecins et des grands spécialistes de la question du VIH. Et au début, je devais prendre la parole que 5 minutes. Je me suis retrouvé à une heure devant tous. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir sortir ce que je sors à une fin de projection habituelle.
Et donc, vous l'avez préparé, vous l'avez travaillé?
Je l'ai préparé comme un fou, mais je crois qu'ils étaient vraiment ravis. Et c'est là où j'étais invité dans plein de CHU, de voir que j'étais capable de porter un discours bien sûr vulgarisé, mais...
Il y a eu Cannes, parce que c'est quand même votre premier long métrage. J'ai vu que vous aviez fait des courts métrages.
Gros long.
Gros, en tout cas.
Aussi financé.
Je ne vous ai pas demandé ça, mais est-ce que pendant que vous tourniez ce film, vous sentiez qu'il était en train de se passer quelque chose qui allait résonner dans la société, dans le public?
Alors, nous, tous les jeunes, on s'en rendait pas compte. Pour nous, c'était superbe. Il y avait vraiment du sens dans toute cette aventure. Après, tous les techniciens, eux, disaient, ça, c'est un tournage que vous ne revivrez pas très souvent.
Ah,
nous,
ouais.
Alors que c'est des... Jeanne Lapoirier, les Césarisés, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait de très très belles choses et qui disent ça arrive tous les 8-10 ans.
Donc, ah ouais, c'est à ce moment-là.
Oui.
Et donc vous êtes fait ça très naturellement. Bah, c'est normal, en même temps, c'est votre premier film, donc vous n'allez pas vous dire j'ai jamais vécu ça.
Bah, c'est-à-dire que moi j'ai fait des films, même des longs, mais plus avec des gens de ma génération, avec 3000 euros et on fait quelque chose qui sort dans 10 salles et c'est superbe, mais. Là, non, on ne peut pas comparer, quoi.
Donc, il y a eu le film, il y a eu Cannes, il y a bientôt les Oscars. Vous y allez? Vous êtes du voyage?
Alors, les Oscars, c'est très, très difficile. Il y a très peu de places. Il y a 3 ou 4 places par film. Donc,
ah oui, pour
il y a
tout
déjà,
le monde, en tout.
C'est ça. Donc, il y a déjà 2 producteurs, 1 réalisateur. Donc, ça va être très compliqué.
Le producteur va peut-être vous laisser une place, non?
J'en suis très loin d'être sûr de ça. Et de toute façon, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la cérémonie était blindée de pubs, très longue. Donc, les gens passent leur temps à aller au bar, boire pendant la cérémonie.
Ah, donc vous pouvez y aller à plusieurs et puis vous relayer dans la salle.
Mais non, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont en costard au fond de la salle. Et dès que quelqu'un se lève, pour pas qu'il y ait de siège vide, hop, il y a des figurants qui vont s'asseoir en costard sur les sièges vides.
Ah, c'est génial.
Donc, on est vraiment dans le monde du cinéma américain où tout est fake.
Et vous aimeriez... Enfin, c'est une frustration de ne pas pouvoir y aller?
C'est pas une frustration. Après, c'est sûr que ce serait superbe parce qu'on peut rencontrer des gens qui nous passionnent et échanger. Mais... on ne peut pas parler de frustration après cette aventure.
Et à Cannes, c'était comment? Parce que c'est quand même là que le bruit autour du film a commencé. On a beaucoup évoqué une Palme d'Or. Vous auriez pu, vraiment, les acteurs, vous auriez mérité un prix d'interprétation collectif. Ça s'est déjà fait. Enfin, moi, je vous le donne. Ça vous fait une belle jambe, mais je vous le donne.
Non, on est ravis. C'était inattendu, en vrai, parce que...
Vous avez préparé, pas du tout?
Nous, on a vu le film, que quelques-uns, avoir vu le film avant pour préparer la conférence de presse quand même, et pas puisqu'elle était avant la projection. On s'attendait à rien. Ils n'étaient pas sûrs d'être en sélection. On l'a su le jour de la sélection, vraiment, on a été sûrs. Plus ça avançait, plus il y avait de bruit sur ce film. Et Et non, c'était assez superbe parce qu'en plus, on était tous là. Didier Lestrade, le fondateur d'ACT UP, était avec nous.
Il n'a pas fait de crise parce qu'il est parfois un peu.
Il est parfois assez cassant.
Là, il était heureux.
Là, il était heureux.
Même s'il a fait un papier le lendemain, un billet de blog où expliquant sa situation en disant on applaudit les acteurs, mais les malades du sida sont RSA.
Complètement, mais en même temps.
Mais
c'est
ça, c'est lui en même temps.
C'est
enfin,
lui,
donc on
c'est
peut
sa liberté.
Ouais.
C'est...
Puis c'est bien que quelqu'un le rappelle aussi. Oui. C'est que. Il y avait peut-être un peu quelque chose comme un remords de la part de ce public qui a applaudi.
Ben oui, je pense que si ça a été si bien accueilli aussi, c'est une certaine culpabilité de notre société. C'est qu'est-ce qu'on a fait
C'est on applaudit d'autant plus les militants d'ACT UP qu'on se dit qu'on a peut-être pas. Alors vous étiez pas né à l'époque, mais qu'on a. En tout cas, qui était dans la salle, qui est plutôt plus mon âge que le vôtre, devait se dire qu'est-ce qu'on a fait. Nous, finalement, on a vu nos copains mourir, on a vu nos. Qu'est-ce qu'on a fait ?
Oui, c'était dur de réagir. Hein. Et c'est ça aussi qui est assez beau chez Robin, c'est qu'il montre qu'il y a des gens qui n'en avaient rien à faire parce que c'était des PD détox et des prostituées, globalement, et qui se sont réveillés que lorsqu'il y a eu l'affaire du sang contaminé, donc que ça touchait tout le monde. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, en fait, étaient perdus, peu informés, n'ont pas réagi, n'ont pas compris, en fait, que ce qui était en train de se passer était une épidémie majeure. On en parlait très peu. Le président en a très peu parlé.
J'allais dire quelque chose de complètement idiot puisque j'allais dénoncer ce que je suis en train de faire depuis maintenant bientôt un peu plus de 20 minutes. C'est que j'allais vous demander si vous n'avez pas peur d'être enfermé dans ce rôle et en fait on ne parle que de ça. Donc j'allais quand même vous demander qu'est-ce que vous faites depuis, sur quoi vous travaillez.
Évidemment on en parle beaucoup mais voilà, là j'ai tourné quelques jours avec.
J'imagine envie aussi comme acteur qu'on parle de vous pour autre chose.
Oui, j'avais fait beaucoup de théâtre avant donc ça continue. Là je reprends certaines tournées et après j'ai des très belles rencontres avec...
C'est facile après, justement, on va dire que ma question n'était pas si idiote. Est-ce que c'est difficile après un rôle aussi marquant de retrouver quelqu'un qui se dit bah, « je vais le prendre lui » parce que...
Bah, c'est-à-dire que là, j'ai eu plein de petits rôles où on se dit « bon, avec Olivia Assayas » ou des choses très, très jolies, pas avec Thomas Caillet, où c'est des choses... c'est grâce à ce film. Donc forcément, il y a une filiation dans le type de personnage, avec des correspondances et d'autres pas. Mais non, quand même, ça ouvre des portes de dingue. On rencontre des gens sublimes qu'on adore.
Ouais, j'ai vu que vous aviez joué quand même dans une pièce adaptée de William Tevelman. On n'a plus le temps d'en parler au Théâtre des Célestins. C'était l'année dernière, ça peut-être.
J'ai joué
ambitieux,
deux fois.
C'est quelque chose de. Volman, c'est quand même un auteur.
Volman, c'est ambitieux.
Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu en tout cas. On pensera à vous le soir des Oscars. C'était La Relève que vous venez d'écouter. Une émission proposée et présentée par Christophe avec à la réalisation Louis Julien. Donc merci donc à Antoine Reynard encore
merci
une
beaucoup.
Fois d'être venu aujourd'hui pour nous parler. On peut toujours voir à Paris 120 battements par combien
minute.
C'est par heure, par minute. La semaine prochaine à la même heure, vous retrouverez l'équipe de 30 minutes. Moi je m'y perds avec tous ces chiffres. On se retrouve nous dans 335 heures ou si vous préférez dans deux semaines. D'ici là, restez à l'écoute du programme de Radio Campus Paris. Merci beaucoup, bonne journée à tous.
One day, in May, it suddenly happened.